Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir. Les Poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors avant de rejoindre notre invité de ce soir, je voudrais faire quelques annonces assez rapidement. D'abord, je vais revenir sur la revue de Poésie Vive qu'anime Cathy Garcia, Nouveau Délit, le numéro 57, avec cet éditorial dont je crois avoir déjà peut-être cité dans une précédente émission, mais qui aujourd'hui, à la veille de cette élection présidentielle, prend toute sa puissance. La France, dit Cathy Garcia, s'apprête à élire une nouvelle tête au stand de tir, et le niveau des débats aiguise le désir de silence. Aussi, cet édito va-t-il donner l'exemple? Et elle s'arrête là. Cathy Garcia, donc, dans Nouveau Délit numéro 57, j'ai choisi Alexo Xenedis, qui dit ceci. Je n'utilise pas mon nom de ville, son nom de ville est Ismène Lebert, et signe tout ce que j'écris Alexo Xenedis. Ceci parce que je protège la tranquillité de mes anciens patients qui m'ont déjà prêté assez de rôles lorsque j'exerçais comme psychanalyste pour ne pas leur en proposer un qui me ressemble vraiment. J'ai 67 ans, vis en Sologne, un ours assez sociable, issu d'un croisement aléatoire de Celtes, d'Égyptiens, de Grecs, de Syriens et vraisemblablement d'autres tribus encore, ce qui explique peut-être certains de mes textes. Cessez le feu. Si vous voulez que cessent les guerres, commencez par cesser celles que vous menez contre votre voisin de palier. Si vous défendez bec et ongles la liberté, commencez par cesser de limiter celle de votre voisin de palier. Si vous souhaitez au monde le bonheur, la joie, la paix, cessez de dire avec précision aux voisins de palier quel est leur bonheur, quelle est leur joie, quelle est leur paix. Demandez-leur plutôt comment ils sont humains. Leur façon vaut bien la vôtre, leur humanité vaut bien la vôtre. Et s'il y a des fous parmi eux, parmi vous, vous en parlerez ensemble au lieu de vous jeter à la gueule les monstres de l'un, les monstres de l'autre. Par moments, vous m'épuisez à ne reconnaître, parmi les opérations élémentaires, que la soustraction et la division. Voilà, c'est extrait donc de cette revue « Nouveau délit » de Cathy Garcia. Je vous indique que vous pouvez procurer donc cette revue à deux secondes, à l'Étou, à l'association Nouveau Délit, l'Étou, L-E-T-O-U, 46 330 Saint-Cyr-la-Popie, un très beau village, Saint-Cyr-la-Popie. Alors également, je voudrais signaler les éditions Alcyone. Alors les éditions Alcyone ont un catalogue qui est tout à fait honorable. Et parmi ce catalogue, aujourd'hui, nous allons parler de Louis Raoul. Louis Raoul, donc, qui publie Paille de pluie dans cette collection Suria, qui est la collection de poésie. Alors Louis Raoul, il est né en 1953 à Paris. Il réside d'ailleurs toujours à Paris. Il est retraité de la profession bancaire et il a publié à ce jour de nombreux recueils, dont, je cite, « Démantèlement du jour », c'est paru aux éditions Éclat d'encre, « Les beaux suivants » aux éditions de l'Atlantique, « En attendant les murs » aux éditions La Renverse, et Louis Raoul a collaboré à diverses revues et anthologies. Donc je vous signale sa dernière parution, donc, qui s'appelle Paille de pluie aux éditions Alcyone, animé par notre ami Sylvaine Arabeau. Je vais vous lire simplement un extrait. J'ai l'âge de vos châteaux, Charles d'Orléans, et le sang qui coule dans mes veines est l'huile chaude des batailles. de votre siècle. Je suis le prisonnier de la plus haute tour, des sans sommeil, j'écris inlassablement la neige des nuits de vos prochains hivers. J'écris à la lumière de l'hiver, découpant la pluie d'un jour, les épluchures sur le chemin témoignent d'un encas de fruits clairs. J'écris en une saison de l'humide et le poème est lourd sur la page menaçant d'une averse de voyelles. J'écris maintenant à la lumière d'une lampe, le soir est tout autour, quelqu'un s'est fait cendre pour habiter le vent et je témoigne ici d'une urne avec des mains posées sur ses hanches juste avant de verser. Avec ce qui est arrivé, on pourrait dire que c'est un nouveau chagrin. Ou bien est-ce le même, celui d'il y a longtemps, et dont on voudrait se départir, mais qu'on arrange tout de même comme un bouquet près d'une fenêtre. Poésie, donc, vous avez vu, poésie assez narrative, un peu dans le style des poètes de l'école de Rochefort, on retrouve là ce lyrisme et cette humanité. Voilà, Louis Raoul, Paille de Puy, aux éditions Action, ça vous coûtera 16 €. Et enfin, je termine avec une traduction déjà ancienne que je reprends aujourd'hui parce que le printemps des poètes avait comme thème l'Afrique et qu'il s'agit de Ernest Pépin, Le Bel Incendie. Alors, Le Bel Incendie, c'est une édition, je crois, de 2010 que je reprends là. Voici ce que disait Bruno Doucet sur cette édition. Pierre Segers disait partager un Mississippi de fraternité humaine avec le grand poète noir américain Langston Hughes. Au seuil de ce livre, je me demande ce que je partage avec Ernest Pépin. Est-ce un fleuve? Je ne dirais pas les choses ainsi. Une île, peut-être, mais la sienne est réelle, plus indiscutable que la mienne, puisqu'il est né en Guadeloupe en 1950 et qu'il y vit encore. Alors, ce que je partage avec l'auteur de Tambour Babel, c'est un volcan, ou plus exactement, le fait de vivre en poésie sur les pentes d'un volcan, un volcan nommé désir, colère, débordement, chair d'esclave, marqué au fer rouge, racines rougeoyant sur les brûlures de l'histoire, passion souveraine, souvenir des deux anciens, nature imprévisible. Voilà. Donc, pour Ernest Pépin, la poésie est l'art d'approcher et parfois de contenir les forces incandescentes et obscures du volcan. La métaphore est l'œil d'un félin, tapis dans l'ombre. Femme, au temple de pierre polie, au temple couleur de jungle, qui conjure un mauvais sort, danse de couleuvre, terre tremblée, cri mouillé, femme, du fond des nuits qui sort les pagaies lumineuses de sa révolte, épouse des aurores boréales, ruche zélée des moussons remuant les vagues du commencement. Je voudrais te parler de l'amour qu'on oublie, couvert de poussière morte, de n'avoir pas vécu, de ce sucre qui change le goût du matin, de tout ce chant d'abeilles et de ce soleil aveugle, on appelle ça l'amour, par crainte de notre mort. Mais qui dira, la partition qui rêve de devenir musique, l'honnêteté de la note juste, le cercle étroit des bras, la source en sourdine, qu'en est la perle de l'eau, qui dira, le duo des danseurs, la clé fidèle, le respect, la présence, le grand vide qui creuse l'autre, l'explosion solennelle d'une peau qu'on dénude, le corps comme un triomphe, la vie que l'on boit, qui dira l'amour, puissant comme un silence, perdu, retrouvé, prêté, donné, surgit sous les paupières transparentes du hasard. Qui dira, qui dira, qui osera? Ernest Pépin, Le Bel Incendie, aux éditions Bruno Durocher. Ça vous coûtera 6,10 €. Voilà, maintenant, place à notre invité, Michel Arbatz. Bonsoir. Bonsoir Michel.
Bonsoir Christian.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, au programme, nous allons d'abord commencer par Michel Arbatz.
Oui.
Et puis, donc, nous écouterons des poèmes de Michel Arbatz, en particulier ceux publiés aux éditions Le Temps qu'il fait Nativité. Puis, vous nous parlerez un petit peu de ce livre Oura l'oral. Et enfin, bien sûr, nous finirons par « Je connais que pauvres et riches », le testament Villon adapté, dit et chanté par Michel Arbatz, qui est la publication donc, dont nous allons essentiellement parler dans cette soirée. Alors, Michel Arbatz, je crois que le mieux, c'est que je vais vous demander de vous présenter vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Alors, ça, c'est un petit peu long. Bon, disons que j'ai un parcours un peu atypique. J'ai eu la chance, d'abord, je dois le dire, d'entrer en poésie grâce à un professeur de lettres. Quand j'avais 14-15 ans, j'étais parisien, au lycée François Villon d'ailleurs, et ce professeur m'a emmené à la fois dans la poésie et dans le théâtre. Je crois que ça a son importance parce que j'ai abordé la poésie, bon, évidemment par la lecture, comme tout le monde le fait, mais aussi par la voix et par la mise en scène de cette voix, disons la voix de la poésie, quoi. Ça a été la première chose. Ensuite, il y a eu, je fais partie de cette génération qui a été emportée par la ferveur de mai 68. Et dans cette ferveur, j'ai complètement abandonné la piste des livres et même de la poésie pour faire l'expérience assez dure d'ailleurs de travailler en usine pendant plusieurs années, mais dans l'idée évidemment que c'était là que se passaient les choses et que c'est dans le creuset de la classe ouvrière qu'allait s'inventer quelque chose de nouveau, voilà. Et ça a son importance parce que c'était aussi une expérience un peu, je dirais presque auto-castratrice pour moi. Ça m'a coupé un peu de la poésie et pourtant j'y suis revenu par le biais de la chanson. Donc pendant quelques années, et d'ailleurs au début dans un esprit très militant, je me suis mis à écrire des chansons qui ne valaient pas grand-chose à mon avis du point de vue des textes et peut-être même pas de la musique, mais... ça a été la façon, parce que comme quand même j'avais un certain sens de la bonne ouvrage en ce qui concerne l'écriture, j'étais toujours aiguillonné par l'idée de faire mieux, et petit à petit je suis retourné à mes amours anciennes, en particulier, enfin le lien s'est fait peut-être grâce à d'autres amis qui chantaient avec moi, qui étaient mes aînés, qui avaient eux aussi un lien fort avec la poésie. Je pense en particulier la rencontre avec Armand Gatti, parce qu'à l'époque j'étais, il faut le dire, en Bretagne. J'avais quitté Paris pour être en Bretagne. J'ai vécu d'ailleurs quelques années juste à côté de Saint-Rennes-de-Bretagne, qui était la patrie de René Guicadou. Et je me souviens avoir déjà renoué avec la poésie, puisque j'avais écrit une chanson justement qui parlait du pays de Cadou, enfin de mon étonnement d'ailleurs de penser que cet homme avait pu émerger, enfin cette voix poétique avait pu émerger dans un milieu aussi, je dirais presque arriéré et hostile, quoi, qui était la Brière, où j'ai habité. Voilà, donc je saute rapidement les étapes, mais pour dire tout ça que je suis revenu petit à petit par la chanson à la poésie, notamment en mettant en musique des poètes, puis en montant des spectacles consacrés à des poètes. Donc ça, je l'ai fait pendant une trentaine d'années. J'ai monté des spectacles en particulier sur Robert Desnos, qui m'est très cher, enfin à la fois pour sa poésie et pour le rayonnement de l'homme, quoi, la droiture de cet homme, son destin tragique aussi. Et puis j'ai monté un spectacle sur René Char qui s'appelait Char Résistance, autour de ses textes de résistance essentiellement, mais toujours par le biais du théâtre, c'est-à-dire c'était un spectacle dans lequel nous étions trois à jouer sur scène, en incarnant plus ou moins, enfin de façon partagée je dirais, la voix de René Char. Et puis enfin j'ai fait aussi un spectacle sur Georges Brassens, ce que je considère aussi comme un poète populaire. Un long spectacle sur Roland Dubillard, qui est également un poète méconnu, et puis Villon, et puis à nouveau Desnos, puisque voilà, on va parler de ce disque et livre Villon, mais c'est un des derniers que j'ai fait, qui tourne depuis 5-6 ans maintenant, quoi. Et puis dernièrement, j'ai fait enfin un spectacle autour de Robert Desnos, qui c'est un nouveau, qui s'appelle Desnos et Merveilles. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. C'est forcément très embryonnaire parce que voilà, je ne suis plus tout jeune et j'accumule les kilomètres au compteur. Donc j'ai essayé de résumer très vite.
Alors merci beaucoup, Michel Arbas. Peut-être que nos auditeurs qui consultent notre site les-poètes.fr ont remarqué que depuis maintenant quelques années, nous nous faisons l'écho de vos spectacles, hein, en particulier alors, sur ceux de François Villon. Et puis, j'ai un salut à vous transmettre. C'est celui de Michel Host. Michel Host, qui il se souvient parfaitement de vous. Michel Host, qui a été votre surveillant, je crois, dans un lycée parisien.
Hein? Absolument, mais c'est un peu réducteur de le présenter comme ça. Il n'a pas fait que me surveiller, il m'a aussi incité à lire beaucoup de poésie.
Voilà. Il se souvient parfaitement de vous et il m'a demandé de vous adresser son salut.
Eh ben, j'en suis ravi et je lui ferai signe moi aussi, ouais, bientôt.
C'était notre invité d'il y a quelques semaines, ou il n'y a pas très longtemps. Nous avons eu le plaisir de faire une émission avec lui.
D'accord, bon.
Alors, et puis également, vous avez parlé de Bretagne avec Cadou. C'est un endroit que je connais bien. La Brière, je connais bien également. Et c'est un endroit merveilleux quand même. Hein. Surtout maintenant, c'est devenu une réserve très protégée.
Très protégée. Oui, bien sûr, bien sûr. Je n'y suis pas retourné depuis très longtemps. Enfin, bon, ça a été un petit peu, je pourrais plus en parler puisque il me faudrait retourner. J'étais dans un tout petit village. J'ai écrit des choses là-dessus qui ne sont pas publiées, que j'espère publier un jour. Mais voilà, j'étais frappé parce que c'était quand même un pays très pauvre, quoi. Alors je sais pas maintenant, c'est peut-être ça a été envahi aussi de résidences secondaires. Ça a peut-être perdu ce caractère. Très antique presque que ça avait. J'habitais dans une maison au toit de chaume, mais ça n'avait rien de touristique. Hein. C'était comme ça que les gens habitaient. Et j'étais frappé par l'idée que un poète ait pu émerger dans un milieu aussi dur, en fait. Voilà. Mais je pense qu'il y avait quelque chose qui l'a nourri, qui était son père instituteur, qui lui-même était poète d'ailleurs, qui écrivait de la poésie. Quoi.
Il passait ses vacances à Saint-Michel, chef.
Oui.
Et il faut saluer le travail d'Hélène Cadou, puisque c'est Hélène Cadou qui a reconstitué à Louis Ferre, dans l'école de Louis Ferre, le décor exact à l'emplacement du livre près.
Tout à fait, dans l'école du village où René Guy Cadou a enseigné. Enfin, j'ai eu la chance d'ailleurs d'être invité par elle pour y chanter il y a longtemps, quoi, il y a peut-être une vingtaine d'années.
Et moi aussi, j'ai eu la chance de m'asseoir sur le fauteuil au bureau de René Guy Cadou, à Louis Ferre, invité par Hélène Cadou. Alors, nous allons parler donc de votre activité quand même d'auteur, de poète, avec ce livre, publié autant qu'il fait, Nativité.
Oui, c'est un poème. Bon, je ne publie pas beaucoup de poésie, mais je m'en expliquerai tout à l'heure. Peut-être vous avez lu mon essai Oural Oral. Je suis un peu toujours tiraillé entre deux choses, c'est-à-dire entre... bien sûr, on écrit par nécessité, mais je pense qu'on a derrière nous de tels trésors de poésie qu'il faut d'abord les servir oralement. Mais bon, il m'arrive quand même de ressentir le besoin pour des choses très précises d'écrire, et voilà, j'ai écrit ce texte qui s'appelle Nativité sur une naissance, la naissance d'un de mes enfants. Voilà, et donc, si vous voulez bien, je vais vous en lire un petit extrait. C'est un tout petit livre, c'est un poème qui fait une trentaine de pages à peu près, je vais vous en lire un court extrait. Voilà, bon, c'était important que je dise qu'il s'agit d'un nourrisson ou d'une nourrissonne dont on parle. Déjà tu nous as pris par ta minusculerie. Ton cul tient dans ma paume. Animaux nous sommes. On pourrait te lécher. N'était une crainte de vassaux à leur suzeraine. On te compte en heures. On dit de toi, elle a 3 heures. Merveille qui s'allonge. Ta bouille, photomaton de l'Inca, de la danseuse balinaise, ta bouille, traversée par son train de désir, sucer, boire, ingérer. Nous, silence, de te voir. Silence, te peser au creux d'une main. Silence, chercher l'angle juste pour une photo. Tu as 10 jours peut-être. Ces pleurs qui durent le soir, ton mal à digérer le monde, à te perfuser la lumière. Je te pose au travers de mon ventre, mon bassin est plus large que ton corps, qui, météorite, s'y enfonce. Densité, ta chaleur, abandon et mégawatts. Je sais l'instant précis où le silence te gagnera. C'est inscrit dans le poids de ton souffle. C'est une évidence très douce de bête. Tu vas cesser de geindre. Tu te tais. Le silence brille. Presque doux de t'entendre crier. Ta parfaite jérémiade. Au moins, la nuit ne t'aura pas reprise. Tu es bien là, vivante, notre ébauche chérie. Trayant à ton insu le vin du ciel. Ce calme que tu charries comme une barque sur tes pleurs. Mon aimée, elle se lève à tes appels, c'est une lionne colossale sur le lit, qu'elle traverse nue et ronde, ta géante asservie. D'un rien te soulève, te pose au clocher des seins. Parfois, d'un mouvement très désirable pour te mettre à meilleure école, effleure ta bouille à ton grand dame de ses juteuses mèches blondes. Et moi, je me repais de vos dialogues. Je veille au commerce équitable qui vous endort sur le comptoir. Notre sommeil, auberge ouverte, porte battante de la nuit. On entre, on sort, on échange des nouvelles de ton microscopique et mondial événement, avènement, car tu prétends au règne sur notre temps. De tout on s'entretient. Miracle de ta chair, de ton ventre pommelé, des plis inédits de tes cuisses, de la moutarde ou du vert bronze de ta merde, de ton rot attendu. Tes bruits, on les guette comme un concert d'oiseaux quand tu râles ou tu pousses soudain un effet de juron. Langue roulée à un téton virtuel. Ah, tu soupires. Tu t'appelles Ah. La gorge et le tendre jaillissent de ton presque syrinx avec le sérieux d'un docteur de synagogue. Petite solitude et confiance de marin, les nuits de la chaleur. Je vois voler des mouettes qui traversent la lune en braillant. Et le combat des chats me trompe, non, ce n'est pas toi, mais la même supplique à la vie. Voilà mon poème, dit dans ta langue de lilas. Pardon Hugo, pardon Verlaine, mais musique avant toute chose, tu baves et bafouilles, et moi avec toi, bulant ta salive comme un escargot au jour des laitues. Je réapprends le bonheur de ramper, le baiser à la terre, au tapis, au carrelage, le trait doux du trait bas. Je confectionne des clés de mes 10 doigts, je pince et je prends, je pleure et je bois. Regardez-moi, grand de ce monde, mon maître est une enfant de quelques mois.
Voilà, merci Michel Arbas. Donc c'était Nativité pour la naissance, je suppose, de votre fille.
Oui, pour la naissance donc, d'une de mes filles, oui.
C'est un beau cadeau que vous lui avez fait là. Hein?
Oui, c'est surtout un cadeau extraordinaire que fait la vie d'une naissance. Voilà.
Alors. Vous publiez un essai qui s'appelle Oura l'Oural.
Oui.
Aux éditions toujours Le Temps qu'il fait.
Absolument,
qui nous interpelle beaucoup, parce que d'ailleurs, je pense qu'il faudrait, avec d'autres poètes, je pensais à Jean-Luc Pouliquen par exemple, organiser un peu un dialogue autour du thème de la pensée centrale quand même de ce long essai, puisqu'il s'agit là, en définitive, de toute une réflexion sur l'avenir de la poésie, le sens actuel de la poésie maintenant, et surtout ce retour d'une poésie à l'oralité.
Oui. Oui, est-ce qu'il y a une question précise ou est-ce que je dois développer là-dessus?
Non, mais quelle place tiennent dans cette désaffection, vous dites, la poésie de combat, embarquée dans la mouvance communiste du XXe siècle, puis sa contre-vague formaliste.
Formaliste.
Et quelle responsabilité endossent parfois les poètes eux-mêmes en s'enfermant dans diverses postures et clichés qui ont la vie dure. Alors
Oui, on a beaucoup de choses là, enfin qui sont beaucoup d'axes de réflexion qui nous sont posés. Bon, la première chose pour moi qui est frappante, hein, c'est la question de l'oralité. C'est d'ailleurs le titre du livre « Hourra l'oral », c'est un éloge de l'oralité. Évidemment, c'est aussi un clin d'œil ou un pied de nez, comme on voudra, à Louis Aragon qui avait écrit un « Hourra l'oural », qui était un éloge du régime soviétique, que je ne partage pas du tout. Mais donc la première question, c'est ça, c'est l'oralité, et c'est l'oralité comme moyen de transmettre la poésie. Parce que j'entendais ce matin sur France Culture Alain Finkielkraut se désoler de la déperdition de la langue comme étant un peu le lien le plus fondamental d'une nation. Oui, effectivement, il y a une déperdition de la langue, mais on pourrait lui répondre, comme le dit d'ailleurs Jacques Roubaud, que j'aime beaucoup, ce poète français contemporain, la poésie est la mémoire de la langue, et il n'y a pas de meilleur outil pour transmettre la langue que la poésie. Et ça peut commencer tout petit à la maternelle, par exemple par ces excellentes chants de fleurs et chants de fables de Desnos, hein, qui à travers des choses qui, apparemment très naïves, nous emmènent très loin dans la contemplation du monde ou dans la réflexion sur le monde, voilà. Mais c'est toujours à travers la langue, à travers une espèce d'excellence de la langue. Et je crois à l'oralité pour transmettre ça. Je le crois non seulement par conviction, mais par mon expérience, parce que moi-même, c'est un professeur qui m'a fait apprendre le texte par cœur, qui m'a emmené en poésie, et puis depuis à peu près 30 ou 40 ans, je ne fais que ça, c'est-à-dire transmettre de la poésie par ma voix, et pas du tout par l'écrit, si vous voulez. Non pas que je dédaigne l'écrit, puisque c'est aussi, j'ai découvert beaucoup de poètes par l'écrit, mais l'écrit n'est qu'une partition, si vous voulez. L'écrit, c'est comme, c'est une fois un livre qui n'est pas lu, ce ne sont que des tonnes de papier, c'est tout. Et c'est à ça que je me suis attaché depuis très longtemps, c'est-à-dire à essayer de transmettre le plaisir d'entendre la poésie par la voix. Voilà. Alors pour le reste, après, bon, il nous faudrait un temps beaucoup trop long qu'on n'a pas pour parler de ça, mais je renvoie les gens à l'essai. Effectivement, il y a toutes sortes de raisons à cette désaffection. Voilà, la messe scolaire qui est parfois un peu stupide, qui est de la décortication et de la dissection que le partage. Il y a aussi l'attitude de certains poètes qui s'enferment dans une tour d'ivoire de malédiction, souvent inventées par eux-mêmes d'ailleurs. Et puis il y a aussi des images toutes faites qu'on a de la poésie, qu'elles soient un peu sentimentales à l'eau de rose ou au contraire poésie dite de combat qui s'encombre de clichés. Moi je suis d'abord sensible à une voix, à l'originalité d'un langage, d'un texte, et ça existe dans tous les domaines, que ce soit le domaine engagé, le domaine du poème d'amour, c'est à ça que je suis sensible avant tout, quoi.
Alors, c'est voilà, nous qui
je
ne
voudrais pas m'étaler trop longtemps,
hein,
parce que je vois que l'heure passe et que...
Oui. Alors, je disais, c'est pas nous qui allons vous contredire, puisque nous nous efforçons, bien sûr, ici à la radio, puisque...
Mais évidemment, la radio est par excellence un média de communication formidable. D'ailleurs, Desnos était un pionnier de la radio. Il disait en plaisantant, je suis le poète le plus écouté de France. Et c'est vrai, il était beaucoup plus écouté que beaucoup de poètes qui publiaient, mais qui n'étaient jamais entendus. Voilà.
C'est vrai. Alors, il y a un chapitre, vous dites « Comment dire la poésie ?» Vous citez à la fois Queneau, « On n'est pas là pour emmerder le monde
ouais. ».
Et puis, Nougaro, Claude Nougaro. Hein,
vous
dites la chanson
«
Art mineur », oui, mais mineur de fond. Mais
oui.
Mineur de fond.
Oui, en parlant de la chanson, oui. Oui. Je cite également Léonard Cohen, que je considère comme un des très grands poètes du XXe siècle, qui a écrit un très beau texte qui s'appelle « Comment dire la poésie ?», voilà, dans lequel il insiste aussi sur une sorte de modestie nécessaire, quoi, d'humilité devant le texte, quoi. Voilà. Je pense aussi que une certaine emphase peut parfois éloigner les jeunes de la poésie. Parce qu'il y a un désir très fort, je pense, dans la jeunesse de déclamer, de dire, on le voit à travers le slam, le rap, etc. Mais il n'y a pas de transmission, quoi. Il manque souvent les chaînons des prédécesseurs, quoi.
Vous dites à propos de Cohen, hein, Cohen fut au départ avant tout un jeune poète et écrivain. Il fait état dans ses interviews de ses lectures à voix haute dans les cercles de poètes canadiens, de leurs scènes empoignades sur la qualité de leurs vers et avec humour rétrospectif de leur certitude d'être les acteurs d'un changement fondamental de l'humanité.
Oui. Oui, et au fond, il a beau faire de l'humour là-dessus, je pense qu'il est quelqu'un qui a amené énormément, mais par la chanson, justement. C'est-à-dire que la chanson est un biais populaire qui fait entrer la poésie dans la vie quotidienne aussi. Enfin, quand elle est à ce niveau-là, évidemment, comme je pourrais citer Nougaro, qui était aussi un poète, hein, qui a hérité de Hugo par le biais d'Audy Berthy, dont il a été secrétaire un certain temps. Je pourrais parler de Léo Ferré, évidemment, qui est un de nos grands poètes vivants, et qui a aussi, je pense, fait qu'Aragon devienne un poète populaire, parce que je pense que Ferrat et Ferré ont été les meilleurs serviteurs de la poésie d'Aragon.
Bien sûr. Alors, nous allons passer maintenant à « Je connais que pauvre et riche, le testament vit long, adapté, dit et chanté » par Michel Arbaz. Et nous allons, si vous voulez bien, commencer par écouter la vie de François avec la voix de Jean-Louis Trintignant.
Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. François Villon est né à Paris en 1431, l'année où Jeanne d'Arc fut brûlée à Rouen, à la fin de la guerre de Cent Ans. Cette année-là, grand froid sur la France, grand froid sur Paris, la Seine a gelé, les loups rôdent aux portes de la ville. François est orphelin de père. À 6 ans, il échappe à une épidémie qui fait 50 000 morts dans la capitale, pour la plupart des enfants. À 7 ans, sa mère le confie au chanoine Guillaume de Villon, qui lui donne son nom et fera de lui un écolier puis un bachelier. Il a le don de langue. Il gagne vite la sympathie des étudiants, ses compagnons de fronde, par les couplets moqueurs qu'il chante dans les tavernes. C'est un temps de mensonges. La guerre a laissé place au règne des financiers qui font la loi sur la ville. Assez puissant qu'il l'a connu de près, Villon dédie ses vers les plus insolents. En juin de l'an 1451, il a 20 ans. Un soir, au cours d'une bagarre, il blesse à mort un prêtre. Blessé lui aussi, il fuit Paris et une justice expéditive. Il y revient l'année suivante à la Noël pour voler avec quelques complices 500 écus au collège de Navarre. Pour échapper aux recherches, il repart vers Angers. Suivent 5 années d'errance dont on sait peu de choses, sinon qu'il fréquente la cour de Charles d'Orléans, le prince poète, et qu'il ne parvient pas à s'y faire reconnaître. Dans le même temps, il se lie aux Coquillards, une bande de malfaiteurs très organisée. L'été de 1460, il est à la prison de Mains-sur-Loire. On ignore pour quelle affaire. Thibaut d'Aussigny, évêque d'Orléans, le fait torturer 3 mois durant. C'est d'ailleurs à lui que s'adressent les premiers mots du testament. Passant par Orléans, Louis XI, tout juste couronné, accorde une amnistie générale à tous les prisonniers, ceux dont profite Villon. Il rentre à Paris où il écrit le testament, ce testament. Il a 30 ans. L'an 1462, il est repris par la justice pour s'être mêlé à une bagarre avec un notaire pontifical. Il est condamné à être pendu. Il fait appel. Sa peine est commuée en 10 ans de bannissement de Paris. On ne sait rien de sa vie après cette date. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Entendrez-vous ces vers? Ils ont presque 6 siècles aujourd'hui.
Voilà, donc c'était la voix de donc de Jean-Louis Trintignant qui parlait de la vie de François Villon. Alors François Villon, vous dites que vous l'avez découvert au lycée où vous étiez avec votre professeur, la Michel Monory, à Paris.
Absolument, oui. Hein? Oui, oui. Villon, je l'ai découvert parce qu'il nous avait fait apprendre tout simplement la balade des pendus. Et puis j'écoutais aussi beaucoup Brassens quand j'étais gamin. Et il y avait évidemment la balade des dames du temps jadis, que j'ai repris d'ailleurs dans ce spectacle et dans le disque, évidemment. Voilà, ça a commencé par là. Bon, il serait trop long de parler. Enfin, je pense qu'il y avait aussi un écho dans le jeune adolescent que j'étais de la personnalité de Villon. Bon, et mauvais garçon un petit peu, quoi. Voilà. Vous m'entendez toujours?
Voilà. Alors, c'est un très beau livre hein, qui a paru toujours au même éditeur là, le temps qu'il fait.
Oui, absolument, oui. Tout d'ailleurs, comme Z n'est pas, ne se trouve pas en librairie, on le trouve chez l'éditeur, mais en revanche, les autres livres sont distribués en librairie. Enfin, en tout cas, le Villon vient de paraître, enfin, il est paru il y a quelques mois, je pense qu'on doit le trouver facilement à Toulouse, quoi.
Oui. Alors, ce très beau livre qui est également, où il y a également un CD, dont nous allons écouter maintenant quelques extraits. Et on va trouver dans ce livre, d'abord une belle traduction de Villon. Hein,
oui, et, absolument, oui. Voilà.
Et puis, quelques pages qui sont très intéressantes sur, justement, un petit peu ce qui vous a amené à cette passion de reprendre Villon, comme vous l'avez fait depuis quand même pas mal de temps, là, maintenant.
Oui. Oui. Je pense que le mieux, c'est qu'on fasse écouter quelque chose, parce que parler de la mise en musique est beaucoup moins efficace que de faire entendre, je pense. Et peut-être aussi, ça fait du bien d'entendre de la musique, tout simplement.
Alors, on va écouter « Aimez donc tant que vous voudrez ».
Amants qui n'ont saisi la balle, les dames ont repris la volée, c'est ce que soldes d'amour valent, car loyauté y est violée, même à doux baisers accolés. De chiens, d'oiseaux, d'armes, d'amour, chacun le dit sans y penser, pour un plaisir, mille douleurs. Aïe, aïe, aïe. Aimez donc tant que vous voudrez, fréquentez réjouissant ces fêtes, à la fin pas mieux n'en faudrait, vous n'abrutirez que vos têtes, folles amours font les gens bêtes, Salomon les idolâtra, Samson en perdit ses lunettes, heureux, heureux, qui ne s'en mêlera. Sardane n'a pas le preux chevalier qui prit le royaume de Crète. En femme voulut se changer et filer parmi pucelettes. Le roi David, sage prophète, crainte de Dieu en oublia. Voyant la vécuie se bien faite, heureux, heureux, qui ne s'en mêlera. De moi aussi je veux parler, comme au lavoir on bat l'étoile, je fus battu tout nu, allez, qui me fit manger son gros sel, c'est Catherine de Vaucelles, témoin Noël qui était là, qu'à ses noces il est là pareil, heureux, heureux,
Delphine s'en mêlera. Croyez-vous ce jeune mulet qu'il renonça à ses fillettes? Non, et vif du ton le brûlé, comme chevaucheur de balayette, plus doux celui son que civette, et jamais il ne s'en défia, qu'elles soient blondes ou brunettes, heureux, heureux, qui ne s'en mêlera.
Voilà, alors vous dites ça fait 40 ans que la voix de Villon vous parle.
Oui, je pense, oui, facilement. J'ai pas fait le compte exact, mais enfin bon, j'ai connu. Je suis rentré là-dedans à 15 ans, donc voilà, vous pouvez faire le compte.
Même
faire
et vous étiez en lycée, ça s'appelait François Villon.
Pardon ?
Et vous avez fait vos études au lycée François Villon ?
Oui, c'est un hasard. En fait, le lycée ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque. C'était une annexe du lycée Buffon à Paris. Je raconte une petite anecdote sur ce professeur qui avait proposé à quelques autres de le baptiser Maurice Audin, dont peut-être certains savent qu'il était un grand universitaire mort sous la torture en Algérie. Et évidemment, cette nomination ne plaisait pas, était inacceptable pour le rectorat qui a fini par appeler le lycée François Villon, et mon professeur à ce moment-là a dit, si je comprends bien, en plaisantant évidemment, vous avez préféré donner le nom d'un petit brigand à celui d'un grand universitaire pour ce lycée, voilà. Oui, c'était un hasard, le nom était un hasard. Maintenant, je pense que ce qui est extraordinaire dans Villon, c'est la langue, c'est l'actualité aussi de Villon, le côté... voilà, que je pense à ce vers tout simple qui dit « Je meurs de soif auprès de la fontaine ». Est-ce qu'il y a un vers de toute notre poésie qui pourrait mieux résumer l'état de notre monde actuel que celui-là ? Ou encore plein d'expressions populaires qui nous sont restées, autant on emporte le vent, où sont les neiges d'antan, un langage à la fois très simple et très populaire, et puis qui parle des problèmes essentiels, voilà, de l'égalité de tous devant la mort, du passage du temps, de la fraternité, de l'amour, du côté dérisoire, de l'arrogance des puissants. Voilà, toutes ces choses-là sont dans Villon, avec des mots très simples. Et c'est ce qui fait qu'il ne vieillit pas. Je suis très étonné, on tourne ce spectacle depuis maintenant presque un peu plus de 5 ans, et à chaque fois, des gens me disent, mais c'est incroyable, vous êtes sûr que, enfin, vous n'avez pas rajouté des choses, ça a été écrit au 15e siècle. Et oui, ça a été écrit au 15e siècle.
C'est un des miracles de la poésie, ça, quand même, cette intemporalité. La vraie poésie ne vieillit pas.
Elle ne vieillit pas quand elle sait être simple, je crois. Oui. La question de cette simplicité est très importante. Il n'y a rien d'abscon d'obscur dans Villon. Il y a l'obscurité peut-être de la langue, mais c'est pour ça que j'ai fait un travail d'adaptation. C'est-à-dire le livre, comme vous l'avez peut-être dit, se présente comme un vis-à-vis du texte original de Villon et d'une adaptation en vers, en respectant, j'ai essayé de respecter au maximum la prosodie. Enfin, je me suis conformé exactement au système de versification de Villon, en essayant de ne pas utiliser des mots qui ne soient pas contemporains, en me basant sur les dictionnaires d'étymologie, voilà, et en gardant le système rimé. Je crois que c'est une tentative que personne n'avait faite auparavant.
Tout à fait, il y a un travail absolument considérable de ce travail d'adaptation qui est presque un véritable travail de traduction.
Hein. Oui, on peut dire que c'est une traduction d'une certaine manière, avec tous les problèmes que ça pose, c'est-à-dire de trahison, comme on dit, enfin, ou de trahison obligatoire, ou en tout cas de recherche d'équivalent, parce que tout simplement, quand vous dites, quand on dit lait, par exemple, le mot lait veut dire laïque, tout simplement, dans la langue de Villon. Donc si vous changez ce mot en position finale, il faudra trouver un équivalent, vous ne pourrez pas garder la rime en est. Enfin, c'est ce type de problème auquel je me suis heurté un des problèmes. Je m'en explique dans une longue préface du livre qui fait une quarantaine de pages, en parlant de tous ces problèmes de traduction, mais aussi des mythes et de qui ont régné autour de Villon.
Alors on va écouter « Je connais que pauvre et riche ».
je connais que pauvres et riches, sages et fous, laïcs, abbés, nobles, vilains, larges ou chiches, petits et grands et beaux et laids, dames en col à midonnet, ou de très basses conditions, en beaux atours ou gros bonnets, morts, saisis tous, sans exception. Et meurt Paris ou Hélène, quiconque meurt, meurt à douleur, il en perd le souffle et la laine, son fiel se crève sur son cœur, puis il sue, Dieu sait quelle sueur, nul ne lui aide aucun secours, car enfant n'a frère ni sœur qui leur voudrait prendre son tour. La mort le fait pâlir, frémir, le cou enflé, les veines tendres, le nez courbé, la chair mollir, joints et nerfs craqués se distendre, corps féminin qui tente et tendre, poli sous F et si précieux, te faudra-t-il ce mal attendre, ou bien tout vif aller aux cieux, ou bien tout vif aller aux cieux.
Voilà, alors ce que je vous propose maintenant qu'il va falloir nous quitter,
oui.
C'est nous allons nous quitter non pas sur le générique qui est les poètes de Léo Ferré, mais nous allons nous quitter sur la balade pour prier Notre-Dame. Si vous le voulez.
Eh bien, c'est une bonne voilà. Idée. Voilà, c'est un texte que Villon avait écrit pour sa mère, parce que le testament est fait aussi de tas de balades qui sont dédiées aux uns et aux autres. C'est une galerie de portraits aussi, ce testament. Voilà, et puis bon, j'espère... c'est très court, évidemment, hein, le disque fait plus d'une heure dix, hein, donc c'est une somme, donc j'espère que les auditeurs pourront le retrouver en extenso, quoi, pour et puis aussi je me permets de signaler l'adresse de mon site internet.
Absolument.
Sur lequel vous savez Christian que oui. De notre côté aussi, moi-même à Montpellier avec une brigade d'intervention poétique comme on s'est baptisé, nous fabriquons des émissions aussi des portraits de poètes, et ces portraits sont aussi disponibles en écoute permanente sur mon site. Voilà, mon site c'est donc il suffit de faire Michel Arbat, www.michelarbat.com. Voilà, et je pense qu'il ne saurait exister de concurrence entre des amoureux de la poésie.
Bien sûr, nous avons absolument la même finalité.
Voilà. Mais je vous remercie beaucoup de votre accueil.
Eh bien, c'est nous qui vous remercions. On rappelle le titre de ce livre, hein, « Je connais que pauvres et riches », le testament Villon, adapté, dit et chanté par Michel Arbat, aux éditions Le Temps qu'il fait. Eh bien, merci beaucoup, Michel.
Merci Arbat, à vous, Christian.
Au plaisir. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de passer d'autres extraits au cours de nos prochaines émissions de cet excellent CD donc, qui accompagne ce livre. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon
revoir,
Michel Arbat. Claude et moi, nous vous disions à la semaine prochaine. Adichast.
Dame du ciel, régente terrienne, empereur des infernaux palus, recevez-moi votre humble chrétienne, et que je sois compté dans vos élus. Et ce même si je n'ai rien valu, vos bienfaits, madame, ma maîtresse, sont plus grands que ne suis pécheresse. Et sans eux, Il n'y a d'âme à venir jusqu'aux cieux. Je ne suis menteresse. En cet espoir, je veux vivre et mourir. Femme, je suis pauvre et déjà vieille. Je ne sais rien et je n'ai jamais lu. Je vois dans l'église où cierge faisaille, paradis peint avec harpes et luttes, et l'enfer où les damnés sont bouillus. L'un me fait peur, l'autre me met en liesse. Vous me donnez la joie, haute déesse, et à vous, tout pécheur doit recourir. Sa foi le comble, il ne ment ni paresse. En cet espoir, je veux vivre et mourir.